tú eres muy malo, muy, muy malo. La interpretación siempre negativa, siempre negativa.
Y digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy.
En face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Piqué, il faut qu'il aille avec Shakira, avec tout, la carrosserie, je sais pas, regardez.
Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas, no sé.
No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro.
Ah.
Esa es la diferencia.
Yo creo que vocalizo muy bien, pero
sí,
bueno.
Sí, bueno, pero yo en este caso creo que no.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu après le débrief du Classico sorti hier. On se retrouve aujourd'hui pour une prévia du match phare de cette 12e journée de Liga entre la Real Sociedad et le FC Barcelone, deux équipes évidemment du haut de tableau, deux équipes qui sont alors pas forcément au coude à coude en termes de points, mais qui se collent en tout cas au classement. On va en parler de toute façon de ce match. Pour nous parler de la Real Sociedad, on retrouve Capi Le Gurvan qui est avec nous. Comment ça va ?
Eh ben, salut Ruben, merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et puis écoute, bah, toujours un plaisir de pouvoir parler de la Real, surtout pour une belle confrontation contre le Barça.
Voilà, exactement, tu l'as dit. Et puis évidemment, pour nous parler du Barça, le maestro, toujours fidèle au poste. Sacha, comment ça va ?
Ben écoute, préfet, ça va super. Après, non, Capi, on ne t'accueille pas. C'est la maison, c'est la Dream Team, hein, comme on le dit. C'est les débuts des podcasts et c'est toujours un plaisir en plus pour cette belle affiche. Donc là, on a vraiment hâte de vous présenter cette belle affiche, tout simplement.
Ouais, surtout, voilà, ce sont deux équipes quand même qui... Bon, on a parlé de la défaite du Barça dans le Classico, on a parlé aussi, on n'a pas forcément parlé, mais la Real avait perdu il y a pas si longtemps non plus contre Atlético, mais de manière générale, ce sont des équipes quand même qui ont gagné pas mal de leurs matchs, et qui sont en tout cas bien classées, on va y revenir évidemment. En parlant d'abord de la Real Sociedad, qui est un peu l'équipe à la mode en Espagne sur ces dernières saisons, Gurvan, c'est vrai que... Tu faisais aussi la réflexion tout à l'heure dans le groupe que cette saison, le Girona est pas mal aussi comme équipe à la mode. Mais on va revenir donc sur le début de saison de la Real. Je te disais, 11 matchs, 19 points, une cinquième place pour le moment. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé un peu du début de saison des hommes d'Imanol Alguacil?
Bah écoute, il me semble que j'avais eu l'occasion d'en parler un petit peu lorsque j'étais venu avant de mémoire le match contre le Real Madrid où on avait évoqué... une équipe de la Real qui était un petit peu pas en dents de scie, mais en faiblesse par rapport au début des saisons précédentes, qui était vraiment tonitruant, un peu à la Girona de Michel en ce moment. Et puis, finalement, c'est une Real qui avait peu perdu, deux défaites à son actif, tu le disais, contre l'Atlético, et sinon c'est contre le Real Madrid, en espérant que ce soit pas une nouvelle défaite contre le troisième gros du championnat ce week-end, mais sinon c'est quand même un début de saison qui est plutôt très correct avec une cinquième place, alors même que c'est une année de Champions League pour nous et qu'on l'avait dit au début de saison, c'était peut-être pas une équipe qui avait un effectif très fourni pour jouer toutes les compétitions de la meilleure des manières.
Ouais,
moi je dirais, ouais, juste pour conclure, pardon Ruben, je dirais que c'est un bon début de saison quand on prend la globalité des compétitions. On aurait pu attendre plus de cette équipe-là aussi. Mais en fait, je suis un petit peu mitigé, puisque pour remettre dans le contexte, il y a eu un peu des points de perdu la semaine dernière contre le Rayo, hein, avec un match nul de but partout. Et forcément, ça a un petit peu cassé la dynamique qui était plutôt sympa en dehors de la défaite contre l'Atlético, tu le disais.
Ouais, et puis même en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, du coup, c'est vrai que t'en disais deux mots, mais la Real est quand même première de son groupe. Il y avait eu ce match nul effectivement face à l'Inter qu'il me semble on avait évoqué avec toi, mais il y a eu depuis évidemment ces victoires contre Salzbourg et Benfica. C'est quand même pas un groupe non plus évident, enfin c'est pas le groupe le plus simple pour toi de tout ce qu'il y a, et pour toi la Real Sociedad est première pour l'instant.
Ouais, c'est vraiment pas un groupe simple, et on a enfin vu la Real Sociedad qu'on voyait en Liga proposer du beau jeu, hein, depuis 3-4 saisons et l'arrivée d'Imanol. C'était une équipe qui avait du mal en Europe, même en Europa League, hein, à part quelques beaux matchs contre Manchester United, ça n'avait pas forcément été trop ça sur le reste des rencontres. Et là, on a vraiment une équipe qui a mûri et qui sait faire la différence contre les gros. On l'a vu contre l'Inter, mais on l'a aussi vu contre Salzbourg et Benfica, comme tu le dis, qui sont des adversaires quand même coriaces. Et c'était un petit peu pour nous le groupe de la mort où tout le monde peut sortir. Et en même temps, tu peux aussi facilement finir quatrième. Donc la Real nous habitue parfois à quelques surprises, donc ne crions pas victoire trop vite, mais c'est un très très bon début, quasi parfait, hein, si on peut dire, sachant que le dernier match contre l'Inter pourrait être presque anecdotique en fonction de la physionomie des deux prochaines rencontres, des mercredis d'ailleurs pour notre part.
Ouais, puis on le sait, en plus, la Real avait pour objectif de rester un petit peu en Europe. C'était bon, la deuxième place, elle faisait rêver, mais ce que la direction, même Imanol, disait, c'était vraiment de rester en Ligue Europa. Et je trouve que tout ce que tu dis, Capi, d'ailleurs, sur ta Real est vraiment très très juste. Et moi, je salue vraiment le travail d'Imanol Alguacil parce que, en fait, il y a eu une constante avec lui depuis qu'il est sur le banc, c'est la progression. On a vraiment l'impression que chaque année, cette Real progresse, vraiment arrive à chaque fois montrer un beau visage et à le confirmer, aller toujours plus loin. Et là, tu vois, c'est parfaitement ce que tu dis, parce que on avait une belle Real en Liga, mais qui avait toujours un peu de la peine en Europe. Et là, cette saison, on sent que ça y est, ils sont arrivés à vraiment emmagasiner tout ça, à tirer profit de ces expériences un peu néfastes en Europa League et d'afficher ce visage en Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui se révèlent totalement pour le haut niveau, comme Kubo par exemple, même Robin Lenormand, je trouve qu'il est un peu moins mis en avance en ce début de saison, mais il est là. Mikel Merino, alors il est souvent un peu touché aussi, on y reviendra après, mais enfin quand il est disponible, on l'a vu même avec l'Espagne, c'est un joueur au milieu de terrain qui est vraiment bourré de qualité. En tout cas, c'est une Real de ce début de saison, surtout en Ligue des Champions, qui me plaît beaucoup, parce qu'en plus on est sur une Liga qui reprend un peu des couleurs, et c'est vraiment le porte-drapeau de ça, de ces retrouvailles avec cette Liga qui nous plaisait tant il y a tellement de temps, cette Real Sociedad, où vraiment c'est une équipe qui joue vraiment pour régaler et qui veut gagner, mais en régalant. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un plaisir à regarder, même si celui qui gère l'animation de ce podcast, des fois, sera un peu moins dithyrambique que nous.
Et l'habitude d'en faire les frais, c'est pour ça.
Oui, disons que le dernier derby a été un peu compliqué, mais effectivement, non, la Real, vous l'avez dit, qui est une équipe en toute objectivité, effectivement, qui est agréable à avoir joué et qui d'ailleurs contribue grandement au fait que, à part peut-être le Sevilla pour l'instant, les clubs espagnols d'ailleurs sont en Europe en très bonne forme cette saison, et la Real en tout cas est un des meilleurs clubs espagnols en Europe cette saison, donc c'est aussi un point évidemment qu'il faut mentionner. Sacha, je passe avec toi pour parler du Barça. Ça va être un peu en complément de ce qu'on a évoqué dans le podcast de bilan du Classico, mais c'est vrai que le Barça donc a perdu ce match, se retrouve maintenant à, on l'a dit, à 4 points du Real Madrid, 4e place, donc du coup à 4 points du Girona aussi. Est-ce que toi tu considères déjà après 11 journées que le titre du Barça de la saison passée est en danger, ou tu veux laisser encore un peu de temps?
Non, après on est que là on commente une prévia de la 12e journée, donc 12e journée, grosso modo c'est un tiers de la saison, voilà. C'est pas rien n'est définitif. L'année dernière, le Barça avait également perdu le Classico, c'est ce que je disais dans le podcast précédent, mais on sent quand même que cette année, y a un Atlético de Madrid, et il y a pourquoi pas une très très belle surprise avec le Girona. Il y a une Real Sociedad qui avait mal commencé, mais si jamais ce match venait à mal se passer, ils reviennent sur tes talons. Non, c'est sûr que c'est un Barça qui a serré les dents et qui est arrivé à glaner quelques succès, donc au final ça va, mais il y a eu ce match nul initial à Getafe, idem à Majorque, idem encore du côté du Girona. On a, alors on y reviendra par la suite, mais une défense qui est un peu plus perméable, et on se dit quand même que c'est une saison où la concurrence peut être rude, et il vaut mieux pas non plus trop laisser de points en route. Et là, c'est vrai que l'enchaînement des matchs entre ce déplacement à Anoeta et la double réception en suivant bien sûr d'Alaves, de l'Atlético de Madrid et du Girona, c'est vraiment un premier tournant de la saison. Alors c'est un Barça qui n'est pas pas chanceux, parce qu'il y a énormément de blessures. Voilà, il y a eu cet enchaînement dramatique avec coup sur coup, tes deux meilleurs milieux qui sont absents, ton meilleur défenseur défenseur, en la personne de Jules Kounet qui faisait un début de saison monstrueux. Lewandowski aussi, ta référence offensive, le Pichichi de la saison dernière qui doit être forfait pendant 3-4 semaines et qui là revient, mais on sent quand même que cette saison il a besoin aussi d'avoir une doublure et qu'il aimerait souffler pour être en capacité maximale. Donc voilà, c'est un Barça. Moi je pense que oui, il faut quand même faire attention, et justement le match face à la Real Sociedad, ça peut faire un peu aussi objet de pourquoi pas match référence pour dire bon, on a perdu un classico, très bien, il y a des circonstances atténuantes, mais vous voyez, sur un gros gros match, c'est une équipe qui est capable de répondre. Je pense qu'on a aussi d'autres thèmes pour évoquer des points qui peuvent aller dans cette direction là, mais voilà, c'est une Liga qui est vraiment compétitive, c'est une Liga aussi où y a énormément de buts qui sont marqués en moyenne à chaque journée, à chaque match on parle vraiment de 3 buts et demi même par match en moyenne, et c'est un Barça qui défensivement est un peu moins serein. Or on sait que l'année dernière c'est un Barça qui a construit son titre là-dessus, sur cette imperméabilité à toute épreuve. Alors il y avait aussi de la réussite, c'est certain, mais c'est un facteur qui commence à nous manquer sur ce début de saison, avec, on sent, une certaine fébrilité. Il faudra pas trembler, parce qu'en face, quand on pense à Kubo, quand on pense à Brice Mendes, quand on pense à tous ces joueurs-là qui sont vraiment en pleine forme, Mikel Oyarzabal, et mon petit doigt me dit qu'on ne va pas tarder à en parler, il y a de quoi faire. Donc c'est un vrai match test pour le Barça. Un Barça qui, non, il ne faut pas encore tirer la sonnette d'alarme, mais comme l'année dernière, il va falloir enchaîner une grosse série de succès pour éviter de voir des doutes s'immiscer. Et la crise n'est jamais loin. On le sait dans ces clubs-là, quand l'exigence est maximale, 2-3 résultats négatifs d'affilée, même face à des concurrents de très haute qualité, c'est jamais bon.
Ouais, mais je te rejoins tout à fait là-dessus. Et nous, pour la petite anecdote, on en discutait avec les copains de la Real Sociedad, qu'un point francophone de la Real Sociedad. Et on se disait, putain, c'était peut-être le meilleur moment pour jouer le Barça. Qui était en forme, mais qui avait des absents et qui avait des difficultés, notamment à l'extérieur. Et puis, tu as cette défaite contre le Real Madrid, qui, on le sait, est toujours très scrutée, très analysée, et qui oblige tout de suite le Barça à réagir. Comme tu le disais, Sacha, la Real, du coup, peut revenir presque à 2 points en gagnant à Anoeta ce week-end. Et c'est surtout que tu pourrais te faire distancer un peu plus par le trio de tête. Et nous, on était vraiment un peu inquiets, j'ai envie de dire, à ce sujet-là, parce qu'on s'est dit que notre avis, c'était de dire que le Barça est déjà presque en danger, parce que tu es toujours un peu en danger quand tu perds le Classico. Enfin, le Barça peut-être pas, mais Xavi un peu plus, en tout cas. Et nous, on s'était dit, voilà, un Barça en danger, c'est aussi un Barça très dangereux. Et ça nous fait un petit peu peur pour le match du week-end. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.
Oui, surtout qu'en plus, Sacha, tu le disais avant, c'est vrai que le Barça jouait déjà Girona et Real Madrid, il y aura le match face à l'Atlético, mais effectivement, ce match face à la Real, ça va quand même être un match face à une des équipes les mieux classées aussi du championnat. Tu le disais aussi très bien, Capi, à l'instant, et c'est vrai que ce match, en tout cas, d'autant plus après la défaite du Clasico, aura une importance particulière, surtout pour la dynamique, pour la confiance, mais aussi pour effectivement tout l'environnement médiatique et même sportif au sein et autour du club, évidemment. Donc ce sera aussi un des points à suivre. Tu faisais justement, Sacha, allusion à Mikel Oyarzabal, on va en parler. Il me semble qu'on a déjà parlé il y a quelques temps, mais depuis un moment ça se confirme aussi. On a l'impression de revoir le numéro 10 au meilleur de sa forme depuis un temps. Est-ce qu'on peut se permettre de rêver sans limite, Jurgen, quand on a un Mikel Oyarzabal qui revient au top de sa forme comme il a pu l'être par le passé?
Franchement, c'est une aubaine pour nous, puisque c'est un joueur de très grande classe. Moi, c'est l'un des joueurs que je préfère de cette équipe-là. C'est le capitaine. Il est emblématique et c'est pas forcément, on le disait, le joueur qui est toujours le plus élégant à voir jouer, mais c'est un joueur qui sait marquer les buts quand il faut, et il a été beaucoup décrié, notamment en début de saison et la saison passée. Et on le rappelle, il a subi l'une des pires blessures que peut avoir un footballeur, une blessure au ligament croisé. Il a mis beaucoup de temps à s'en remettre, mais en même temps, Sacha l'avait très bien dit lors d'un de nos derniers podcasts, il faut en général autant de temps pour se remettre d'une telle blessure que la durée d'absence. Donc forcément, il pouvait pas revenir tout de suite. Mais maintenant qu'il est là, heureusement, parce qu'il remplit à merveille le rôle de numéro 9, plus que de numéro 10 d'ailleurs, puisque Mikel Oyarzabal est plutôt considéré comme un ailier ou un faux neuf jusqu'à présent, mais il faut dire que cette année, il est aligné en attaquant de pointe lors de la majorité des rencontres qu'il a débutées. Il les a débutées en pointe, et là, il en est déjà à 6 buts et une passe décisive en championnat, si je ne dis pas de bêtises. Il a également marqué en Champions League une fois. Donc voilà, c'est un joueur qui est déjà très décisif en ce début de championnat. Et il nous avait habitués à ça, mais son absence et sa blessure avaient vraiment entaché la dynamique. Et heureusement, il y avait d'autres joueurs qui avaient pris un petit peu la relève. Et là, cette année, il y a Kubo, ça je vais en parler tout à l'heure, il y a Bryce Mendes qui met aussi des buts. Mais tu avais besoin d'un numéro 9. Suite au départ de Sorloth, on le rappelle, tu as perdu Isaac il y a 2 ans. Enfin, c'est la deuxième saison que tu fais sans Isaac. Et André Silva blessé. Carlos Fernandez, j'y reviendrai plus tard, mais jusqu'à présent, c'était quand même très très moyen. Et Sadik, qui a peu de choses près, a vécu la même année que Mikel Oyarzabal avec une blessure au ligament croisé et qui lui aussi peine à revenir et a besoin d'un temps d'acclimatation et d'assimilation avec ses coéquipiers avant de performer. Donc forcément, il y avait besoin de quelqu'un et Mikel Oyarzabal est un peu arrivé en disant « Bah écoutez, moi, je suis capable de jouer en 10, on l'avait déjà vu avec l'Aurora, en 9, pardon, et je suis aussi capable de marquer des buts quand il le faut. » Et ça, c'était très très important pour lui, pour faire taire un petit peu les mauvaises langues, et puis surtout pour la Real Sociedad, parce que si elle en est là aujourd'hui, à la 5e place, avant d'affronter le par ça, c'est grâce aussi à Mikel Oyarzabal. Donc oui, on peut rêver, je m'étends un petit peu sur la réponse, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments à donner, et je pense que c'est vraiment un joueur qui peut être le fer de lance de cette équipe, et comme on le disait, lorsqu'il est avec d'autres joueurs avec de telles qualités, je pense qu'il peut viser les 15 buts cette saison.
Ouais, c'est ce que tu nous dis, il a un peu au final repris le flambeau en tant que capitaine aussi, dans un moment où ça pouvait être, comme tu l'as expliqué en citant, enfin en présentant un peu la situation offensive de la Real et en citant aussi plusieurs joueurs, il a pu reprendre un peu ce flambeau dans une période où effectivement certains joueurs n'étaient pas au top de leur forme, mais c'est en ça aussi qu'on reconnaît l'importance d'un capitaine dans une équipe, bien évidemment, comme tu le disais.
Non, mais en plus, c'est assez marrant, puisque c'est un joueur qui avait l'habitude de jouer beaucoup sur l'aile. Depuis les plus jeunes années, on l'a beaucoup connu à droite ou à gauche, et un peu à la manière d'un Antoine Griezmann ou d'un Xavi Prieto, hein, même si toutes proportions gardées, ce ne sont pas forcément les mêmes types de joueurs. Il s'est recentré et on a l'impression que c'était un joueur qui était en perte de vitesse sur l'aile et qui là a un second souffle en jouant dans l'axe et qui peut à nouveau influencer beaucoup plus le jeu et laisser la vivacité d'un Kubo, d'un Barrenechea ou d'un Bryce faire le travail sur les côtés, pour lui être vraiment le joueur clutch de l'équipe et marquer quand il faut.
Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment le joueur en toi qui, effectivement, tu l'avais dit, avait eu un certain temps à revenir à un top niveau. On le retrouve vraiment, voilà, justement, un niveau qu'on connaissait avant blessure. Et forcément, pour une équipe comme la Real Sociedad, c'est... En plus d'être un joueur important, c'est quelqu'un qui pèse aussi dans le vestiaire, dans le collectif de manière générale. Enfin, c'est quelqu'un qu'on connaît bien déjà, Mikel Oyarzabal, mais tu présentais bien sa situation et le fait que voilà, depuis quelques semaines, quelques mois même, c'était quand même beaucoup mieux. Et pour enchaîner, on va parler d'un autre joueur, d'une autre individualité du côté du Barça cette fois. C'est Gavi, évidemment, qu'on présente pas non plus forcément, mais voilà, qui quand même prend une dimension de plus en plus importante au sein de l'équipe de Xavi. Toi, Sacha, qu'est-ce que tu as envie d'en dire de Gavi, tout simplement, et de sa prise d'importance, sa prise de voilà d'importance, de protagonisme, on va dire, au sein du Barça.
Mais écoute, tu vois, j'avais rebondi un peu sur ce que disait Capi sur Imanol, sur la Real, voilà, cette progression constante, et en fait, c'est le cas de Gavi. C'est-à-dire qu'il est jeune, on voit ses qualités, mais chaque saison ou même chaque mois de compétition, il progresse. C'est vrai que c'est un joueur vraiment assez atypique de par son jeu et tout ce qu'il peut générer. Mais en tout cas, je trouve que c'est ce qu'il y a d'assez exceptionnel à son jeune âge, c'est qu'il est d'une fiabilité à toute épreuve, que ce soit avec le Barça, avec la sélection. C'est un joueur qui est capable d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, d'être titulaire, d'être toujours ultra régulier dans sa performance. Je pense que c'est pas forcément le joueur qu'on met le plus en valeur à chaque match, mais ce qui me fascine un peu avec lui, c'est que il a un seuil de performance vraiment très élevé, quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est toujours là pour combler un peu les trous, qui est toujours là pour aider ses partenaires à la relance, pour être le premier relais. C'est vraiment un gros gratteur de ballon. Il a une capacité à se projeter vers l'avant qui est assez aussi phénoménal. C'est une mobylette un peu sur le terrain, et c'est vrai que en l'absence de Frenkie et Pedri, il a vraiment encore pris de l'importance dans ce milieu. Pour reprendre un peu comment tu as amené la question, c'est vrai qu'on pouvait être très inquiet, et ils nous ont évidemment bien manqué lors du Classico, mais lui, il a vraiment rempli son rôle, et je pense qu'à mesure que les matchs le demandent, son niveau de jeu est en augmentation. Alors après, il faut qu'il gère encore ses petites sautes d'humeur. On se rappelle de son petit de son carton rouge à Porto qui lui a valu une suspension face au Shakhtar, et il aurait d'ailleurs été très intéressant de pouvoir compter sur lui face au Shakhtar, quand on voit notamment la fin du match et la déliquescence un peu du milieu. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est vraiment dans le tempo. Par exemple, on a un Gundogan qui vient d'arriver de Manchester City, qui est un joueur d'une qualité certaine, et lui, il est vraiment dans ce milieu de terrain absolument pas étranger à ce football-là. C'est vraiment à chaque fois un joueur qui arrive à se mettre au niveau, et donc non, je pense qu'il y a rien qu'à voir aussi comment il est avec Lewandowski, à quel point il est adoubé par des joueurs qui ont une carrière XXL. Voilà, je pense que c'est vraiment ce début de saison le joueur qui a fait le plus de bien au Barça, qui a fait le plus de bien au Barça parmi ceux qui ne se sont pas blessés. Mais c'est clair et net que quand l'équipe semblait tomber en lambeaux à cause justement de ses blessures à répétition, lui, il a vraiment tenu la baraque, et il a montré même un caractère de capitaine. Et c'est vrai que c'est assez rare à 19 ans d'avoir un joueur qui est capable de prendre autant de responsabilités, de les emmagasiner aussi vite et de répondre à un tel niveau de performance. Je sais pas ce que tu en penses, par exemple, Capi ou toi, Réfé, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est une bénédiction pour le Barça et pour l'équipe d'Espagne de l'avoir. Et je pense que dans un match aussi rugueux en termes d'intensité qui attend le Barça à Anoeta, un joueur comme Gavi, c'est un énorme plus. Et c'est vrai qu'il a été parmi ceux qui étaient incertains pour ce match, parce que s'il prenait un carton jaune lors du Classico, il aurait été suspendu. Ça n'est pas arrivé. Donc, bien heureusement, Xavi va pouvoir compter sur lui.
Ouais, tout à fait. Et moi, je voulais juste rebondir. C'est vrai que c'est un joueur qui déjà avait crevé l'écran la saison passée, mais cette saison, j'avais regardé un petit peu. Tu sentais que c'était un joueur qui vraiment se fondait dans le collectif. Mais moi, c'est sa prestation contre le Real Madrid. Ça m'a vraiment marqué. Et encore plus que sa prestation, c'est le fait que tout le stade le reconnaisse et s'en rende compte sur une récupération où il vient chipper le ballon dans les pieds de Bellingham, il me semble. Et tu as tout le stade qui commence à scander Gavi, et ça m'a vraiment marqué. Alors certainement aussi parce que la dernière fois que j'avais entendu les supporters barcelonais scander un nom, c'était celui de Messi, et j'avais pas souvenir depuis un tel nom scandé en pleine action en fait, et pas
Et
après
la
un but.
dernière fois, excuse-moi de te couper, mais la dernière fois que le Camp Nou, du coup, a scandé Messi, c'était face à la Real Sociedad. Les très chanceux qui étaient au Camp Nou ce jour-là, juste avant le Covid, n'avaient pas. Personne ne pouvait imaginer que c'était justement le dernier match avec le public de Lionel Messi pour le Barça.
Voilà, donc sans faire de raccourcis, mais bon, on sent que c'est quand même un garçon de 19 ans qui a l'avenir tout tracé et qui peut être l'avenir de ce Barça-là. Il ne sera pas tout seul, hein. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment marqué que tout le stade scande le nom de ce joueur-là, sans même à ce qu'il ait eu à marquer un but ou arrêter un penalty. Et donc, tu sentais vraiment l'aura qu'il avait sur la rencontre. Et j'ai apprécié en tant que fan de football, mais j'ai aussi eu un petit brin de bon, en espérant qu'il fasse pas ça ce week-end contre nous, quoi. Donc voilà, j'ai très bon joueur, mais s'il pouvait, voilà, un petit rhume ou quelque chose qui l'amoindrisse ce week-end, rien de méchant, mais qui garde ses forces pour le match de Champions League de la semaine prochaine.
Ouais, bah, de toute façon, ouais, Gavi, pour compléter rapidement vos propos, j'en ai déjà un peu parlé, puis on en a parlé surtout avec JB, puis avec toi, Sacha, dans le podcast de débrief du Classico, mais on avançait justement que ça serait avec face à Bellingham plutôt le duel de la saison. Et je pense qu'effectivement, il faut le placer dans ce registre-là. Évidemment, il n'a pas le même rôle, il n'a pas la même fonction qu'un Jude Bellingham, mais en termes d'importance et puis de ouais, si d'importance qu'il faut lui accorder par rapport à son âge et par rapport aussi à son poids au sein de l'équipe, je pense que c'est un joueur effectivement qui est en pleine explosion. Sacha parlait du fait qu'il devait encore apprendre à se canaliser. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs encore qui sont dans ce registre-là, qui sont des joueurs qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, parfois même un peu trop du coup, mais qui, voilà, à côté de ça, sont des joueurs qui remplissent leur enfin qui font leur travail à merveille tout simplement. Et Gavi est l'un d'eux, et on le voit de toute façon avec le Barça, mais même avec l'Espagne, et l'importance qu'il a aussi pour Luis de la Fuente en étant aussi si jeune. On sait que voilà, maintenant l'Espagne était quand même grandement renouvelée par rapport à il y a quelques années, et la génération qui voilà, un peu, enfin, c'est pas un peu, mais qui a échoué après l'Euro 2012, enfin, les échecs qui sont suivis après l'Euro 2012, cette génération-là a été largement renouvelée. Et finalement, oui, on voit que bah, Gavi, c'est un de ces meneurs-là, un meneur de jeu, du coup, au sens propre, avec au milieu de terrain, mais même, voilà, un des meneurs de cette génération, cette jeune génération qui, bah, quand même, inspire pas mal de, ouais, pas mal de nouveautés, pas mal de. D'envie, en tout cas, c'est ce qu'on peut noter chez beaucoup de joueurs dont il fait partie, voilà, mais avec un Sunset ou même un Nico Williams pour comparer du côté de l'Athletic, un Soubimendi du côté de la Real Sociedad, qui sont pas des joueurs qui évidemment ont les mêmes rôles, mais qui en tout cas ont tous cette capacité à pouvoir voilà, apporter un vrai plus dans leur équipe et en sélection, et puis en plus aussi à voilà, à être quand même des joueurs qui sont assez marquants. Et puis pour enchaîner, bah, je vais rester un peu sur le thème justement du match de ce samedi, en parlant du fait que la Real a eu pas mal de difficultés, on va dire, sur les dernières confrontations face au Barça. J'ai pas la date exacte de la dernière victoire de la Real à Anoeta face au Barça, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de confrontations difficiles. Qu'est-ce qui l'a manqué pour toi, Urban, à la Real, justement, sur ces dernières années, ces dernières saisons, à domicile en tout cas, pour avoir autant de mal face à une équipe comme le Barça?
Ouais, non, mais c'est vrai que j'essayais de me souvenir l'autre jour d'une bonne prestation de la Real face au Barça, et celle de la saison passée n'était pas si catastrophique que ça. On avait une très bonne Real Sociedad qui sur 60 minutes avait été très présente, et puis qui a totalement sombré dans la dernière demi-heure. Pareil, on se rappelle juste avant la finale de Copa, il me semble, où on avait pris une sacrée pilule. Si je me rappelle même plus tout à fait du score, puisque c'est le genre de match que tu essayes d'oublier, mais c'était 6-1. Peut-être 6-1, voilà. Ah bah toi, tu l'oublies pas, ça.
Bah non. Enfin, j'aurais préféré oublier la suite, si tu veux. Mais
bon, on en avait parlé, je me rappelle. C'était un podcast qu'on avait fait juste avant la finale de Copa, et on avait vu une équipe qui était pas là. Alors là, franchement, cette équipe, elle a pas grand-chose pour se dédouaner. Il y a eu des années, il y avait Messi, c'était le meilleur Messi de tous les temps. Voilà, il y avait toujours quelque chose. Ce Barça de cette année, c'est un Barça qui repose plus sur un peu moins sur des individualités, même si on parlait de Gavi ou autre, et qui a un jeu qui est propre au Barça. Mais on a vu, le Real a su les embêter. On les a vus aussi être embêtés lors de leur déplacement. C'est plus tout à fait ce Barça qui roulait sur tout le monde, et où finalement tu perdais contre le Barça, tu te disais oh, c'est pas très grave, on a fait de notre mieux. Moi je pense qu'il y avait un peu de ça. Il y avait aussi une équipe de la Real Sociedad qui n'avait pas forcément l'expérience des grosses rencontres. Là j'attends beaucoup plus du match de samedi soir, parce que c'est une équipe qui, on l'a dit, arrive sur le plan européen à rivaliser. Donc pourquoi est-ce qu'elle arriverait à rivaliser sur le plan européen mais pas face au Barça ou au Real? Finalement, la Real Sociedad, que ce soit face à l'Atlético ou au Real Madrid, a su rivaliser mais a perdu en fin de match. J'attends qu'elle ait appris de ses erreurs aussi. On verra ce qu'il en est, puisqu'on sait qu'il y a toujours des joueurs qui sont un petit peu touchés et qu'on a pu, on a que notre ami Ayen à gauche, et je pense qu'il va avoir beaucoup à faire face aux assauts du Barça, peu importe qui sera sur son aile. Donc moi, c'est une équipe qui, je pense, avait un manque de maturité, avait un manque parfois d'ambition. Ça n'a plus l'air d'être le cas. Et j'espère qu'on va sortir pour jouer contre ce Barça, comme ce fut le cas l'an passé, mais que contrairement à l'an passé, on ne sombre pas en fin de match. Parce qu'on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Mais cette équipe, quoi qu'on en dise, a 11 très bons joueurs titulaires. Et derrière, il y a un gros écart de niveau pour moi, contrairement à ce que peut avoir le Barça avec quelques rotations et de très jeunes joueurs, je pense à Fermin notamment, qui peuvent rentrer et faire la différence. De notre côté, ce n'est pas le cas cette saison. Les joueurs qui rentrent, généralement, n'apportent rien. Et on l'a encore vu sous le week-end dernier contre le Rayo. Les joueurs qui sont rentrés n'ont rien apporté, si ce n'est que la victoire qu'on avait s'est transformée en match nul. Voilà.
Ouais, je vérifiais justement pendant ton propos la dernière victoire de la Real effectivement face au Barça en Liga qui à domicile pardon qui remontait à avril 2016, c'était sur un score de 1-0, but d'Oyarzabal justement servi par Xavi Prieto. Donc voilà, c'était la dernière victoire du coup pour la Real à Anoeta face au Barça. Mais effectivement, ça rejoint aussi un peu ce que tu disais, que notamment sur la prestation de la saison dernière, la Real avait fait une très bonne rencontre avant de craquer un peu en fin de match, comme tu en parlais juste à l'instant. Mais effectivement, c'est vrai qu'à domicile, il y avait eu, sans forcément qu'il y ait des grosses défaites, mais il y avait eu aussi voilà, beaucoup de matchs qui étaient joués à peu de choses près, parfois même certains matchs nuls, mais effectivement pas de victoire depuis un certain temps. Et du coup, pour terminer sur ce point, on va dire avant match, je reviens avec toi Sacha pour un joueur du Barça. À nouveau, c'est Ter Stegen qui effectivement est un peu pointé du doigt sur certaines rencontres cette saison. On voit que déjà tout simplement le Barça a encaissé plus de buts que la saison dernière enfin du moins est parti pour encaisser plus de buts que la saison dernière en Liga. Il y a peut-être aussi voilà la défense qui est à pointer du doigt, mais voilà, toi qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois ça plus comme un simple coup de moins bien pour le gardien allemand, ou au contraire tu es plus inquiet concernant son niveau de manière générale cette saison?
Ouais, bah, je pense que c'est un sujet qui fait vraiment débat. Alors bon, il faut dire que pour ceux qui m'écoutent depuis maintenant longtemps dans les podcasts ici, s'il y a bien un joueur sur lequel j'ai presque jamais tapé, c'est vraiment Marc-André Ter Stegen, parce que pour moi c'est un gardien vraiment de très très grande classe. Je pense à la saison dernière, il était à un niveau stratosphérique. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il soit à ce point-là fort et qu'il arrive à détourner des ballons comme il l'a fait. Mais enfin, dans ce début de saison, alors oui, il a peut-être été un peu en manque d'inspiration sur un ou deux buts. Peut-être que son match à Mallorca n'est pas le meilleur. Mais enfin, pour moi, j'ai pas l'impression que Marc-André Ter Stegen ait vraiment, de par ses performances, coûté des points au Barça. Je pense que les problèmes sont ailleurs. Et lui taper dessus, c'est pas forcément la chose la plus lucide qu'on peut faire, parce que encore une fois, je pense qu'il y a un Barça qui souffre au milieu de par les absences, pareil une défense qui est peut-être un peu plus instable que la saison dernière. Mais tu vois, par exemple, toi et moi on était au stade face à l'Athletic Club et on a vu deux parades coup sur coup d'ailleurs, assez monstrueuses de Ter Stegen, et deux parades qui se sont révélées être vraiment décisives pour les trois points face à l'Athletic Club. Et sans elle, à mon avis, le Barça serait déjà dans une position beaucoup plus délicate à l'amorce de cette rencontre. Voilà, en Ligue des Champions, c'est pareil, il a été capable d'en faire, notamment à Porto. Donc non, moi je ne suis pas vraiment... je ne suis pas vraiment inquiet pour Marc-André Ter Stegen. Je pense néanmoins qu'un gardien, c'est aussi quelque part un bon baromètre d'une équipe. Et alors l'année dernière, on avait un Barça qui était très très fort et qui au final a réussi à s'imposer assez tranquillement en Liga. Ben, on avait un gardien qui était monstrueux. Cette saison, le début, c'est un peu plus compliqué. Et là, on voit un Ter Stegen, ben oui, forcément, qui des fois prend un peu de but. Mais en tout cas, voilà, je pense que le concernant, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense qu'il est capable de sortir un gros match à Anoeta. Bon, voilà, on connaît mon côté chat noir. Désolé, désolé pour la petite bourde au pied. C'est ma faute. Mais non, plus sérieusement, je suis pas inquiet. Voilà, je pense que tout à l'heure, on parlait de Mikel Oyarzabal. Alors, Ter Stegen n'a pas eu une telle blessure. Mais voilà, je pense que des fois, quand on est en présence de grands joueurs, les doutes qu'on peut avoir suite à 2-3 performances, il faut savoir les mettre de côté parce que, encore une fois, ce sont justement des grands joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et non, je pense que c'est un joueur qui est vraiment très important dans cette équipe. Et encore une fois, je pense que d'ici à la fin de la saison, les mauvaises langues n'auront plus grand chose à dire parce que c'est un homme fort du 11 de Xavi, et pareil, lui aussi est devenu capitaine. Je pense que c'est peut-être aussi une chose à emmagasiner. On parlait de cette capacité qu'avait la Real Sociedad à devoir emmagasiner les étapes franchies. Ben, mine de rien, c'en est une pour Ter Stegen. C'est une belle preuve de reconnaissance, et peut-être que pour lui, ben, ça change aussi de passer de simple gardien à véritable référent sur le terrain pour son équipe. Donc voilà, mais en tout cas non, pas vraiment inquiet, et je m'attends à ce que Ter Stegen dans les semaines à venir nous gratifie de performances similaires à celles de la saison dernière.
Oui, complètement, et puis tu faisais référence effectivement à ce match contre l'Athletic, et Dieu sait que sur les deux parades effectivement qu'il a fait, je me suis levé et voilà, la suite était un peu moins belle, mais effectivement tu l'as dit, deux parades décisives, et puis de manière générale, tu l'as dit, un gardien qui, voilà, malgré les quelques erreurs qu'il a pu faire, elle se quand même, en plus d'être un joueur important et aussi, voilà, maintenant un cadre du vestiaire depuis un certain temps pour le Barça. Et justement, pour enchaîner et parler du match directement en lui-même, je reste avec toi, Sacha. On sait qu'il y avait pas mal d'absents côté Barça sur les derniers matchs. Est-ce que du coup, il y en a toujours à signaler? Est-ce qu'il y a des retours d'absence aussi à évoquer? Je te laisse nous donner ça.
Ben écoute, l'infirmerie se vide, ça c'est clair. Déjà pour le classico, Rafinha, Lewandowski et Koundé, à la surprise générale, étaient revenus dans le groupe. Donc là, ils seront bien là pour la Real Sociedad. Ils auront encore plus de rodage. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Pedri aussi, qui maintenant enchaîne les séances d'entraînement à intensité normale avec le groupe, donc ça c'est très très bien, on va pouvoir à nouveau compter sur lui qui est absent depuis la deux ou troisième journée de Liga. Et ensuite, je pense que le seul doute, enfin non, il y a Sergio Roberto qui lui est encore absent pour une bonne semaine. Le seul doute reste sur Frenkie de Jong qui continue de se tester, mais qui jusqu'à aujourd'hui jeudi s'entraîne encore un peu en marge du groupe. Je ne pense pas que Xavi prendra de risques avec lui, surtout si en plus Pedri peut être là. Alors Pedri ne sera sans doute pas titulaire, mais voilà, je pense que pour Frenkie de Jong, l'objectif est de l'avoir en pleine forme pour les échéances à venir. À voir s'il sera convoqué, mais la seule inconnue c'est lui, et sinon le forfait bien évidemment de Sergio Roberto.
Très bien, c'est noté. Ouais, donc une infirmerie qui, tu le disais, se vide petit à petit. Du côté de la Real Sociedad, Gurban, est-ce que pareil, il y a des bonnes nouvelles à signaler, ou au contraire aussi des moins bonnes?
Bah écoute, le match d'hier, a priori, personne ne s'est blessé, même si Manol avait l'air de dire que jouer sur synthétique avait laissé des traces sur la plupart des joueurs. C'est vrai que on sait que les matchs de Copa peuvent être un peu traître sur l'état des pelouses. Nous, pour le coup, c'était un synthétique, mais il faut croire que Emmanuel n'est pas un grand adepte de ce type de revêtement. Pour le coup, on aura l'absence habituelle maintenant depuis quelques matchs, et qui est bien malheureuse au vu du départ canon de ce joueur avec la Real Sociedad, c'est Kieran Tierney, qui était vraiment installé très rapidement comme le latéral gauche titulaire, et qui a porté beaucoup par son expérience, pour l'avoir vu au match et avoir pas mal scruté au stade, pardon, et avoir pas mal scruté ses mouvements. On pouvait sentir vraiment que c'était un joueur qui avait beaucoup, beaucoup de vista et d'anticipation sur ses placements défensifs. Et je pense que c'était quelque chose qui manquait un peu à la Real l'année dernière avec Diego Rico et Ayen, qui étaient un petit peu tous les deux avec les mêmes défauts défensifs. Là, on a vraiment un joueur qui a porté et qui sera absent. Et c'est l'une des seules absences à signaler. André Silva, a priori, ne devrait pas jouer. Enfin, on l'a très peu vu cette saison. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air d'être un petit peu la fausse bonne idée du mercato. Heureusement qu'Oyarzabal est présent en pointe, on le disait auparavant. Et puis pour le reste, reste à savoir si Mikel Merino, qui était mis au repos là, pour la Copa, et Zubeldia se sont bien remis et seront de la partie. A priori, pour Zubeldia, sachant que son jaune a été annulé, hein, vous l'avez repartagé sur la page, mais il sera bien présent. Pour Mikel Merino, c'est fréquent, comme disait Sacha, qu'il y ait des petites gênes musculaires. Donc, on n'a pas encore la certitude à ce jour. Et puis pour le reste, j'ai envie de dire que normalement, tout le monde est de retour, que ce soit Zakarian ou Momocho, qui était parfois un petit peu écarté du groupe. Il devrait également être présent pour la rencontre de ce samedi.
Très bien, donc deux groupes quand même majoritairement complets avec en tout cas de nombreux joueurs disponibles, quelques doutes encore, vous le disiez, mais voilà, la plupart des joueurs des deux groupes, pardon, seront présents. Et pour conclure évidemment avec la question ultime, je vais d'abord te la poser, Gurvan, comme la Real jouera à domicile. C'est voilà, comment tu vois ce match, comment tu l'abordes? Tu l'as dit, il y a évidemment le fait que ce match soit troisième, on va dire, face à un cadre de Liga. Voilà, comment tu le sens, simplement, et puis si tu veux nous donner ton pronostic dans la foulée, c'est avec grand plaisir.
Bah écoute, pour l'instant, on n'a pas, si je dis pas de bêtises, joué de cadre à domicile en dehors de l'Inter. L'Inter, c'était un match nul, on a perdu au Bernabeu de Buzyn, on a perdu sur la pelouse de l'Atleti de Buzyn, donc je vois bien un match nul un partout. Un peu la même physionomie que le match contre l'Inter, avec une Real qui marquerait assez tôt. On l'avait déjà évoqué, c'est un petit peu le must de la Real cette année, c'est de marquer tôt et puis de se faire égaliser en fin de match. Donc voilà un petit peu comment je vois, un partout, et puis allez, un petit but de Mikel Oyarzabal pour récompenser ce petit podcast où on l'a salué.
Match nul, un partout. Sacha, de ton côté, comment tu abordes cette rencontre? On l'a dit, déplacement pas facile pour le Barça, surtout dans le contexte de la défaite post-classico. Et pareil, voilà ton pronostic ensuite, si tu veux bien nous le donner.
Ben écoute, ouais, c'est vrai que c'est un match qui est très compliqué pour le Barça, parce qu'il va pas falloir se louper, comme on l'a bien présenté. Une très bonne chose, ben c'est que les deux équipes peuvent compter sur quasiment toutes leurs forces, et donc ça c'est génial pour une telle affiche. En plus, c'est souvent une affiche qui nous donne pas mal de spectacles, pas mal de rebondissements, et je pense que voilà, ce sera deux équipes qui vont se rendre coup pour coup. La bataille du milieu de terrain, elle va être hyper intéressante, parce que bon, alors, même si Frenkie de Jong sera trop juste et à mon avis Pedri sur le banc, là ça va être hyper intéressant de voir justement Fermín López, Gavi, Gundogan, un peu ce milieu qui a très très bien fonctionné pendant 60 minutes face au Real Madrid, face à ce qui est pour moi peut-être l'un des milieux les plus sexy d'Espagne, avec Merino, Zubimendi, Brais Méndez, voilà, enfin, toute cette clique un peu de la Real. Donc voilà, je pense que ça va être un match qui va vraiment se jouer là-dessus, deux équipes qui seront en capacité de se faire mal, un duel dans le duel, c'est aussi Ter Stegen justement contre Remiro, les gardiens de la saison dernière qui ont fait le plus de clean sheet, à voir si l'un des deux sera capable de dégoûter les attaquants adverses. En parlant d'attaquants, il y a le retour de Lewandowski qui est attendu vraiment en forme, parce que c'est Lewandowski qui alors a été génial face au Celta pour permettre la remontada du Barça en début de saison, mais qui mine de rien se cherche au niveau de ses sensations, et ce serait vraiment pas mal de le retrouver. On se rappelle qu'en plus le match de l'année dernière, c'était le match qui avait occasionné ses premiers buts sous le maillot du Barça, un doublé si je me souviens bien. Donc voilà, je pense que c'est un match qui va être intéressant là-dessus pour le Barça. Comme je dis, ça va être une belle épreuve face au milieu de la Real Sociedad, parce que c'est peut-être l'une des premières fois où je pense que le milieu de la Real Sociedad est capable, là aussi, en fin de match, un peu à la manière du Real Madrid, de prendre l'ascendant, et ça peut... ça peut être assez inquiétant. Après voilà, à voir aussi comment agir un Christensen qui est un peu présenté comme en balance à cause de l'excellent niveau de Koundé et d'Araujo, maintenant qu'en plus il y a Cancelo, donc Cancelo qui est à droite, là il y a vraiment trois défenseurs centraux pour deux postes. Voilà, ça va être intéressant. Pareil aussi, un dernier joueur de ma revue d'effectifs, ce sera Alejandro Balde, parce que Pareil, il y en a pas mal qui le pointent un peu du doigt sur ses performances. C'est vrai qu'il est moins explosif que la saison dernière. Moi, je pense que c'est pareil, c'est là aussi une adaptation. L'année dernière, il sortait à peine de ce rôle de jeune pousse qui sort de l'équipe B. Enfin, il a même fait quasiment aucune apparition d'ailleurs avec l'équipe B, mais voilà, qui arrive un peu sur la pointe des pieds dans l'équipe, qui a tout approuvé. Là, il a radicalement changé de vie, donc il faut, je pense, le temps d'emmagasiner tout ça. Mais c'est un match aussi où il peut vraiment faire du mal. J'aimerais bien le voir combiner avec Joao Félix et pourquoi pas retrouver un Ferran Torres en mode Tiburon, le requin qui sort du banc et qui vient mordiller un peu du côté d'Anoeta. Voilà, imaginons une Real, comme l'a dit Capi, qui marque en premier avec des supporters qui tournent le dos et qui sautent, et là un requin qui vient semer la panique dans ce stade. Mais non, après voilà, je pense voilà, deux équipes qui vont se rendre coup sur coup avec une bataille du milieu de terrain qui sera hyper importante. Et pourquoi pas aller, il y a eu une malédiction du Barça pendant longtemps. J'espère que cette série de résultats positifs assez récente pourra continuer, pourra pas une victoire 2-3, du coup, vu que le Barça joue à l'extérieur, des hommes de Xavi qui se rassurent et qui reprennent leur marche en avant.
D'accord, ouais, donc pas mal d'attentes et puis pas mal de buts, surtout tu le disais, même dans la lignée de ce que on évoquait tout à l'heure avec cette Liga qui nous montre beaucoup de buts sur ce début de saison, évidemment. Moi, je partage peu de points de vue, mais je pense que je vais me rapprocher un peu plus de celui de Capi. Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle du coup ou pas, mais non, moi je vois bien match nul là partout, parce que cette Real, mine de rien, et même si on l'a dit, a eu voilà parfois du mal face au Barça à domicile sur les dernières années, me semble quand même être en capacité de voilà de créer du danger, et surtout face au Barça qui n'est pas qui bien que solide n'est pas intouchable, on l'a dit, je pense que c'est être un peu le bon moment pour prendre un point au moins minimum comme grand minimum, ouais, prendre ce point du nul. Donc voilà, moi je verrais bien un match nul qui serait bon. Évidemment, on l'a dit, une mauvaise opération pour le Barça, pas une si mauvaise pour la Real en soi, mais voilà, un match en tout cas assez équilibré, assez enjoué aussi, avec évidemment une bonne ambiance à Anoeta, et puis voilà de l'action, et même si voilà, un partout, ça c'est une ligne de deux buts, et c'est-à-dire un match qui n'a pas tellement de buts par rapport à ce qu'on a pu connaître à ce début de saison. Voilà, on a vu aussi beaucoup de matchs qui, même si en Liga ils n'avaient pas forcément été très prolifiques, beaucoup de matchs qui étaient très intéressants à suivre, où ça allait souvent d'un but à l'autre, où ça jouait bien. Donc voilà, ce match nul, je l'imagine un peu comme ça, un match plaisant ce samedi soir en plus, avec voilà, du monde en tribune, et puis on l'espère, voilà, 22 acteurs au 23, même avec l'arbitre aussi du coup, au top sur la pelouse, et puis voilà un peu pour mon opinion, avec un match nul un partout. Et puis bah, voilà, on arrive à la fin de ce numéro de Previa, de ce match de la 12e journée de Liga. Du coup, merci beaucoup Capi d'être repassé à la maison, d'être revenu nous parler de la Real Sociedad et puis de ce match face au Barça samedi soir.
Oh, c'est toujours un plaisir de revenir voir papa, maman, et puis discuter un petit peu de football. Non, je suis pas venu pour faire les machines, mais non, c'était un très très bon numéro. C'est fait toujours plaisir Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter de la Real, et encore plus quand c'est de telles rencontres où on sent bien, hein, par vos propos, que c'est une équipe qui a vraiment pris de la maturité et du galon dans cette Liga, où l'on parle d'elle désormais pour les tops affiches d'un samedi soir. Donc ça fait toujours plaisir, et puis toujours un plaisir de partager aussi avec toi Ruben et avec notre cher Barcelonais Sacha ces moments, surtout on l'espère, pour pouvoir taquiner le collègue dimanche matin lorsqu'il sera en train de se préparer pour le travail.
Voilà. Le décor est planté en tout cas. Puis bah, du coup, merci à toi aussi évidemment Sacha, comme je le disais au début, d'être toujours fidèle au poste et de nous avoir parlé avec excellence comme toujours de ton Barça.
Eh bien, merci Réfé, merci à toi Capi. C'est vrai que c'était un numéro fort agréable à tourner, tout comme le précédent d'ailleurs, avec avec JB où on revient sur le Classico. Bon, j'espère qu'on n'aura pas le même résultat hein, pour mon Barça, comme vous l'avez dit. Mais en tout cas, voilà, vraiment hâte d'assister ben, au match de cette 12e journée, de prendre pas mal de plaisir entre deux équipes qui jouent bien. Et voilà, non, je vais te laisser le mot de la main, le mot de la main, le mot de la fin, tu vois, Capi, tu m'as
Ah,
perturbé.
il est
Mais
en train de rendre la main là aussi.
Mais non, en tout cas, voilà, un plaisir et surtout, profitez bien, bon match.
Voilà, je reprends la main juste pour conclure et puis bah, évidemment pour remercier toutes les personnes comme on le fait à chaque fois qui nous suivent aussi bien sur les podcasts que sur le compte général de manière voilà de manière quotidienne en tout cas sur, par rapport à notre travail et puis voilà comme toujours n'hésitez pas à partager à commenter ce podcast. À nous dire ce que vous en avez pensé, des conseils, des remarques éventuellement. Et puis nous, voilà, on vous souhaite, comme le disaient mes deux acolytes, une très belle 12e journée, un très beau match, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux numéros.